Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On rencontre ce matin Nicolas Cerciron, auteur du livre « Dette et extractivisme » aux éditions Utopia. On en profite pour refaire un tour au Congo. Nicolas Cerciron, vous êtes président du comité d'annulation de la dette du tiers-monde France, le CADTM. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui est publié aux éditions Utopia, « Dette et extractivisme, la résistible ascension d'un duo destructeur ». Alors vous allez évidemment nous expliquer tout ça, mais j'aimerais peut-être qu'on commence par expliquer cette notion d'extractivisme, parce qu'elle est immensément large et elle remonte immensément loin dans le temps.
Oui, oui, oui. L'extractivisme, bon, moi je le définis comme un pillage parce qu'en fait, les matières premières extraites ne sont quasiment jamais pillées. Donc je dis que c'est un pillage et en plus, quand on extrait des matières premières, on laisse des pollutions, des dégâts environnementaux, etc. qui ne sont jamais pris en compte. C'est pour ça qu'on parle de pillage. Mais l'extractivisme, il a commencé, moi je dis ça pour l'Europe parce que pour la planète, pour l'histoire, avec un grand H, c'est autre chose. Mais pour l'Europe, je dis qu'elle a commencé avec Christophe Colomb, je ne suis pas le seul, bien sûr. Et parce que les grands pillages d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale ont été absolument incroyables. Et ça ne s'était jamais produit, enfin, peut-être à l'époque d'Alexandre ou d'autres, ou d'Attila, ou je ne sais pas. Mais l'Europe s'est construite sur ces pillages, en fait. L'Europe, la puissance de l'Europe par rapport à l'Asie.
De quelle manière ?
En pillant c'est les richesses naturelles, et en particulier l'or, l'argent de Potosi, de partout. Au début, c'est Christophe Colomb est arrivé à Hispaniola, à Haïti. Et puis après, ils ont imposé aux Indiens, qui n'ont pas génocidé, d'extraire les minerais, puis de travailler dans les champs, etc. etc. Et donc, l'Espagne a tellement acquis d'or et d'argent qu'elle s'est arrêtée de faire de l'industrie, c'est-à-dire elle s'est reprimarisée, comme la Russie actuellement se reprimarise.
Reprimarise ?
Oui, reprimariser. L'économie s'est reprimarisée. Elle est redevenue primaire. Primaire, c'est extraction des ressources naturelles, exportation. Ce que fait la Russie. Alors que c'était un pays très industrialisé, avec une technologie, eh bien, la Russie, parce qu'avec son pétrole, etc., se reprimarise. Elle extrait, etc. Et c'est ce qu'on appelle la catastrophe des ressources naturelles. Hein. Et tous les pays qui sont très riches en ressources naturelles ont tendance à exporter, comme le Venezuela, et à ne vivre que de ses exportations, et du coup, à ne pas développer une agriculture, une industrie de transformation, etc.
Si ce n'est qu'il y en a qui deviennent très riches grâce à ça, et d'autres qui, au contraire, s'enfoncent dans la pauvreté, Nicolas Cerciron.
Est-ce que la Russie devient très riche avec son pétrole ? C'est une question qui demande une réponse subtile, parce que certes, Poutine devient très riche, je ne suis pas sûr que les Russes deviennent très riches. Et effectivement, la malédiction des matières premières, c'est quelque chose d'assez qui crée une bourgeoisie dominante, mais ce n'est pas sûr que le peuple en profite vraiment.
Donc l'Espagne, d'après Christophe Colomb, ne s'est pas véritablement enrichie, mais elle s'est peut-être assoupie plutôt.
Une bourgeoisie s'est enrichie et elle s'est assoupie. C'est-à-dire qu'effectivement, et on sait qu'elle a dépensé beaucoup d'argent dans des guerres avec l'Angleterre, ce qui a produit en fait un transfert d'argent vers l'Angleterre, un transfert de cette richesse pour se bagarrer, etc. Donc c'est assez intéressant de comprendre cet enrichissement de l'Europe. Après, bien sûr, la France était au sud de l'Amérique du Nord, etc. La France était dans les Caraïbes. Tous les pays d'Europe ont profité de ça. Tous, jusqu'à la révolution industrielle, l'Europe a trouvé une puissance qu'elle n'avait pas, puisqu'à cette époque-là, au moment de Christophe Colomb, le commerce interasiatique, Inde, Chine, etc., était plus important que l'Europe. C'était des pays qui étaient, d'une certaine manière, plus développés, ou du moins sur un plan commercial, qui avaient beaucoup plus d'échanges. Donc l'Europe n'était pas puissante comme elle est devenue. Et c'est bien par tous ces pillages qu'elle est devenue si puissante, jusqu'au moment de la révolution industrielle.
Ces pillages, parce qu'ensuite, il y a évidemment l'épisode très connu de l'esclavage.
C'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire. C'est-à-dire que quand on a éliminé les Indiens et que les Européens ont voulu produire ce qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire du coton, du sucre, du tabac, enfin tout un tas de choses, et ils ont pratiqué ce qu'on appelle la traite transatlantique. Ils ont été achetés des esclaves. Et au passage, ces esclaves, il faut le dire, parce que les gens ne le savent pas. C'était des jeunes, bien sûr, des femmes et des hommes. Ils vivaient 9 ans, tellement on leur demandait de travailler dur. C'était monstrueux. Et donc les colons qui étaient installés là ont pu exporter vers l'Europe des richesses à des prix une fois de plus, pillage, puisqu'on ne payait pas les esclaves, on ne payait pas la terre, on ne payait rien. Les colons ne payaient rien. Ils exploitaient, ils pillaient. Voilà, donc c'est comme ça que moi j'ai fini par définir l'extractivisme. Ce n'est pas une définition. Utiliser le mot extractivisme dans un sens large, donc je dis c'est un pillage des ressources naturelles, donc végétales, minières, fossiles, aujourd'hui fossiles, ça n'existait pas à l'époque. Pillage des ressources humaines, puisqu'on utilise cet abominable mot de ressources humaines, donc j'en profite. L'exploitation de l'homme par l'homme, c'est le pillage des ressources humaines. Et puis après, j'étends ça au pillage des ressources financières. Mais bon, on va expliquer plus loin pourquoi.
Oui, puisqu'on a encore, mais on va le faire rapidement, Nicolas Cercero, on a encore à évoquer le colonialisme.
C'est pour ça que j'utilise la date de 1850, parce que c'est la révolution industrielle qui démarre en Europe, qui va faire que l'Europe va avoir besoin d'encore beaucoup plus de matières premières pour cette révolution industrielle, puisque l'invention de la machine à vapeur puis le pétrole vont permettre, avec des machines, de transformer beaucoup plus de matières premières qu'on était capable de le faire avant dans les manufactures. Et donc, ça correspond à la période de l'envahissement colonial, de la conquête coloniale, de l'ensemble des continents par les Européens. Et donc, moi, je cite souvent la conquête de l'Ouest, parce que c'est l'époque de la conquête de l'Ouest des États-Unis, ce qui est quand même un pillage énorme, puisqu'il y a environ 50 millions d'Indiens qui vont être exterminés, d'Indiens d'Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Et donc, l'ensemble des continents, l'Australie, l'Afrique, l'Inde par les Anglais, l'Indonésie par les Indonésiens, les Hollandais, pardon, etc. Par exemple, pour l'Angleterre, c'est énorme, parce que l'Angleterre va piller le coton, il va piller les savoir-faire des Indiens sur la manière de tisser et va créer son industrie grâce à ses savoir-faire et grâce au coton indien qu'elle va piller. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et là, il va y avoir un développement colossal de l'Europe par ses conquêtes qui va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux décolonisations. Et là, c'est ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'au moment des décolonisations et assez rapidement après, les armées vont quitter tous ces pays. Et comment, alors que c'est la société de consommation exportée par les États-Unis victorieux de la Seconde Guerre mondiale, comment, pour la société de consommation, acquérir encore plus de matières premières pour faire ce qu'on appelle, moi j'appelle ça conso-gaspillage, eh bien, alors que les armées sont plus là, eh bien, c'est la dette, le système dette, la dette illégitime qui va prendre le relais des armées coloniales.
On y revient dans un instant, Nicolas Cerciron. Juste le temps pour vous de rajouter une forme d'extractivisme. Je trouve intéressant que vous l'ayez évoqué parce que, de fait, on n'en parle jamais sous cette forme-là. C'est l'extractivisme agricole.
Alors, moi, j'insiste beaucoup sur l'extractivisme agricole, qui est d'ailleurs concomitant avec la société de consommation, c'est-à-dire son... De nouveau, les États-Unis qui exportent leur savoir-faire sur l'industrialisation de l'agriculture avec les moissonneuses, batteuses, les tracteurs, etc., etc. Et moi, je parle d'agro-extractivisme. Alors pourquoi ? Parce que l'industrialisation de l'agriculture nécessite d'abord d'extraire des phosphates, de la potasse, du pétrole et du gaz pour le transformer en azote, etc. Donc c'est extractiviste dans ce premier sens-là. Mais dans un deuxième sens qui est mal connu, c'est que l'utilisation de ces pesticides et de ces engrais va détruire la matière organique des sols. Et en fait, c'est une manière de l'extraire. C'est-à-dire que après l'agriculture productiviste, bien les sols sont quasiment morts. On a extrait, c'est un peu virtuel comme mot, mais on a extrait la fertilité des sols, on a extrait l'eau qu'on a polluée, etc. Et c'est pour ça que je dis c'est agro-extractiviste. C'est-à-dire qu'on ne maintient pas les sols dans l'état, ni les ressources en eau dans l'état. On les tue, quoi, on les fait disparaître. Et donc l'agriculture productiviste n'est pas pérenne sur aucun point. Elle n'est nulle part pérenne, alors que l'agroécologie, l'agriculture vivrière est une agriculture pérenne, même si elle n'est pas parfaite, et elle demande à être améliorée, ce qui est fait par l'agroécologie moderne. L'agriculture productiviste a tous les défauts, et alors pour moi c'est le plus grand crime contre l'humanité, l'agriculture productiviste, parce qu'elle est responsable de l'essentiel des pertes de biodiversité, elle est responsable de l'essentiel des déforestations, elle est responsable de l'essentiel de l'utilisation de l'eau douce, 70% de l'eau douce qu'elle rejette polluée. Bon, et puis elle a d'autres défauts, moi je ne vais pas insister, mais l'agriculture productiviste est inutile C'est pas moi qui le dis, bien sûr, c'est des gens comme Jacques Caplat, etc., qui montrent qu'on pourrait très bien se nourrir avec une agriculture biologique qui ne détruit pas, qui ne réchauffe pas, etc., etc. Et d'après l'association Grain, GRAIN, qui est vraiment intéressant, estime que l'ensemble de l'agriculture productiviste et de l'alimentation industrielle, qui sont vraiment complètement en lien, on ne peut pas détacher l'une de l'autre, hein, mais elle est responsable de, selon Grain, de 44 à 57% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est absolument démentiel. Et alors, ce que je veux ajouter, c'est que vraiment, il faut comprendre que l'agriculture productiviste n'existe qu'à travers la viande. C'est-à-dire que 80% des terres de la planète sont dédiées à la viande sous forme de pâturage, herbage, fourrage, grains, etc. Et que, en fait, la viande représente l'essentiel de l'agriculture productiviste. Quand on regarde des champs ici en France ou ailleurs, eh bien, il faut se dire que 70 ou 80% de ces champs vont aller nourrir des animaux. Bon, voilà, il faut environ 7 protéines végétales pour faire une protéine animale. Et donc, c'est quelque chose de complètement démentiel. Je veux pas rendre coupable les gens qui mangent de la viande parce qu'on était instrumentalisés pour manger de la viande. Parce que 1 kilo de viande rapporte beaucoup plus d'argent qu'un kilo de blé, qu'un kilo de riz, qu'un kilo d'orge, d'avoine, etc.
Alors là, Nicolas Cerciron, vous venez d'établir vous-même le lien entre extractivisme au sud, comme on a coutume de le dire aujourd'hui, ou alors dans les pays en voie de développement ou en développement, comme on les appelle élégamment, et l'extractivisme au nord, l'extractivisme bien de chez nous. Alors, on va revenir sur toutes ces notions-là, et également évidemment sur la notion de dette, puisque j'aimerais qu'on aborde ça, mais peut-être... Avant de vous redonner la parole, pourrions-nous écouter Henri Moria qui nous parle d'un extractivisme que vous connaissez bien en République démocratique du Congo, un des pays les plus pauvres de la planète.
France Culture, terre à terre.
Ruth Stegassi.
Henri Moria, vous vivez au Congo, à Kinshasa, la capitale. Vous appartenez à une... ONG, une association qui s'appelle le CERN. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Bon, c'est la CERN, c'est la Commission épiscopale pour les ressources naturelles. C'est une des 12 commissions de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Elle a été créée en juillet 2007, mais elle est opérationnelle depuis octobre 2008.
Et pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de faire une commission sur les ressources naturelles ?
D'un côté, on a vu que le pays est très riche, il a une diversité de ressources naturelles, mais de l'autre, la population est pauvre. Mais à côté de ça, il y a les conflits que nous avons eus à partir de 1996. À cause de cette guerre, il y a eu en 1999 la signature de l'accord de Lusaka qui permettait de faire une sorte de cessez-le-feu entre les belligérants. En 2001, le président Kabila est décédé, il a été assassiné. Et le président Joseph Kabila, l'actuel, a remplacé son père, si je peux dire. Et lui, dans sa stratégie, il a décidé qu'on pouvait continuer à appliquer l'accord de Lusaka, mais aussi qu'il fallait organiser un dialogue intercongolais. Ce dialogue a été organisé en 2002 en Afrique du Sud. À l'issue de ce dialogue, qui a réuni le gouvernement, les rébellions, la société civile, les partis politiques non armés et même les pays voisins qui supportaient les différents mouvements, il a été constaté qu'il y a eu beaucoup de contrats qui ont été signés en défaveur du pays. De part et d'autre. C'est comme ça qu'une décision a été prise de pouvoir revisiter ces contrats. C'est dans ce contexte que la commission a été créée. Donc un contexte où il y a l'abondance des ressources face à la pauvreté de la population et aussi les conflits qui ont entouré l'exploitation de ces ressources.
Ce que vous nous décrivez là, c'est une situation d'une complexité inouïe où il y a effectivement à la fois les convoitises des pays voisins mais également au sein du pays, une guerre civile entre différentes parties, et tout ça autour de ces ressources naturelles. Mais Henri Moria, de quelles ressources naturelles parle-t-on ?
Bon, il y en a une diversité, c'est surtout les minéraux. Et c'est de là d'ailleurs qu'est venu le terme célèbre de minerai de conflit. Donc on retrouve là le coltan, la cassitérite, le wolframite et l'or. Mais à côté de ces minerais dits de conflit, il y a le cuivre et le cobalt qui est exploité au Katanga. Dans ces minerais de cuivre et de cobalt, il y a un certain degré d'uranium, ce qui constitue aussi, à mon avis, un minerai de conflit, même si aujourd'hui on n'aime pas le mettre sur la liste.
Qui s'intéresse à cet uranium ?
C'est les grands pays. Pour le moment, par exemple, je peux noter qu'il y a la France, avec Areva, qui a reçu le monopole de l'exploration de l'uranium en RDC. Donc, il y a les minerais, mais il y a aussi les hydrocarbures. Il y a le pétrole au Congo, qui pour le moment est plus exploité dans la côte ouest, donc la côte atlantique. Bon, à côté du pétrole, il y a le bois. La RDC a une forêt dense qui est considérée comme le deuxième poumon du monde. Mais à côté de ça, nous avons aussi les ressources en eau, pour lesquelles, par exemple, pour le moment, on parle beaucoup de l'énergie renouvelable, donc entre autres l'énergie hydroélectrique. Et nous avons le barrage d'Inga, qui constitue pour le moment un enjeu, non seulement pour la RDC, mais pour certains, pour beaucoup de pays africains, dont l'Afrique du Sud. Et aussi, on a la terre arable. Parce que maintenant, il y a beaucoup de multinationales qui s'intéressent à occuper des espaces, certains pour faire l'agriculture, simplement, mais d'autres l'agriculture pour les biocarburants. Voilà un peu la gamme de ressources. Peut-être qu'il y a d'autres que je n'ai pas citées.
C'est déjà une liste qui fait froid dans le dos.
Je n'ai pas cité le diamant, parce que dans le passé, on a parlé du diamant de sang. Il y a aussi du diamant en RDC.
Parce qu'effectivement, tout ce que vous avez cité, Henri Moria, on sait que ce sont aujourd'hui des ressources qui sont extrêmement recherchées et sur lesquelles il y a des concurrences très violentes et très fortes. Qui, aujourd'hui, est propriétaire des mines, qui exploite et dans quelles conditions? Et je voudrais que vous nous refassiez en fait toute la chaîne, toute cette chaîne d'approvisionnement. J'aimerais qu'on commence au début et qu'on remonte tous les échelons pour comprendre exactement comment les choses s'articulent.
Je peux dire qu'il y a maintenant deux grandes entreprises qui exploitent de l'or, donc c'est-à-dire Banro, une entreprise canadienne qui exploite au sud Kivu et qui produit déjà des lingots d'or. Il y a une autre entreprise, Kibali, qui est dans la province orientale et qui produit déjà de l'or.
Bon. Ce sont des entreprises congolaises ?
Non, c'est... En fait, bon, on peut dire que quand elles sont de droit congolais, donc elles sont congolaises, mais les finances ne viennent pas du Congo. C'est pour cela que j'ai dit que Banro, c'est une entreprise canadienne, et Kibali, c'est une entreprise anglo-sud-africaine. Bon, maintenant, ces minerais, la cassitérite, le coltan et le wolframite, sont exploités par des jeunes gens qui vont creuser des trous et qui entrent parfois dans des galeries assez profondes et où ils connaissent parfois des éboulements et ils en meurent. Ils sortent ces minerais, ils les vendent aux négociants. Les négociants viennent avec ces minerais auprès de ce qu'on appelle les comptoirs. Et les comptoirs qui sont installés dans les grandes villes comme Bukavu et Goma. Et ces comptoirs exportent ces minerais, qui sont achetés par les utilisateurs finaux, si je peux dire, donc les entreprises qui fabriquent, qui vont les traiter pour pouvoir avoir des produits finis. C'est un peu comme ça que ça se passe. Maintenant, le problème se situe déjà au niveau des puits, où parfois on trouve les groupes armés qui contrôlent ces puits. Le problème se situe aussi du puits vers le comptoir. Dans ce parcours-là, on a des groupes armés qui rançonnent, qui font payer des taxes qui ne sont pas reconnues par l'État. Et ensuite, quand ça arrive au niveau du comptoir, c'est exporté. Et de l'autre côté, les gens estiment que ce sont des minerais propres parce qu'ils ne s'occupent pas des conditions dans lesquelles ces minerais ont été exploités. Et on trouve dans cet environnement un tas de violations des droits humains. On parle aussi des viols des femmes. On parle de l'utilisation des enfants.
Henri Mohia, est-ce que véritablement, dans le paysage que vous avez décrit, il est possible de travailler de manière décente et de rémunérer les gens de manière correcte et de ne pas avoir recours à du travail forcé? Vous avez parlé de viol également, de pillage.
Bon, généralement, quand je parle de cette question, je dis qu'il faut agir à deux niveaux. En travaillant sur le contexte, par exemple, si on arrive à stabiliser le pays, donc qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de groupes armés, ces minerais qui seront issus de là ne seront plus appelés minerais de conflit. C'est un pas. De l'autre côté, maintenant, le deuxième pas, c'est celui d'améliorer les conditions de travail de ces artisans. C'est comme ça qu'il y a des efforts qui sont fournis pour pouvoir regrouper ces travailleurs, donc ces exploitants, en coopératives. Alors les coopératives bénéficieraient de l'accompagnement des structures de l'État. Il y a une structure qui a été créée, c'est le CSCAM, donc Small Scale Mining. Alors cette structure doit accompagner pour aider les artisans à pouvoir travailler dans des conditions qui respectent les droits humains, qui respectent l'environnement aussi. Parce qu'il y a aussi un autre problème de l'environnement quand les artisans exploitent, même si on retrouve cela du côté des industriels aussi.
Il y a également, vous le disiez, l'implication des grandes entreprises multinationales.
Il y a aussi l'implication des grandes entreprises multinationales. C'est pour cela qu'il y a un effort maintenant au niveau international d'essayer d'avoir des réglementations contraignantes sur les entreprises.
Ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'il y a des tentatives d'inscrire des nouvelles réglementations, même à l'échelle de l'ONU.
Oui. Malheureusement, jusque-là, ces réglementations sont volontaires, ne sont pas contraignantes. Et c'est ça le problème. Et c'est d'ailleurs tout le plaidoyer qu'on est en train de mener avec beaucoup d'organisations de la société civile européenne et africaine pour qu'il y ait des réglementations contraignantes.
Le plaidoyer que vous faites, vous l'adressez à qui, Henri Mohia?
Le plaidoyer est adressé à différents niveaux. Il est adressé aux décideurs, il est adressé à la population. Aux décideurs locaux, aux décideurs nationaux dans le pays, pour obtenir qu'il y ait des décisions et des politiques qui soient favorables à la population, mais des décideurs au niveau international aussi, parce que les minerais qui sont exploités là-bas finissent leur course en dehors du pays. Donc il faut suivre là où on utilise les minerais pour que on ait des décisions qui permettent de demander aux entreprises de respecter des conditions dignes de travail et de s'empêcher de soutenir, par exemple, des conflits.
Et les multinationales, Henri Mohia, où est-ce qu'elles se situent là-dedans? Est-ce qu'elles sont partie prenante des discussions que vous avez à différents échelons? Est-ce qu'elles se tiennent en dehors et qu'elles font leurs commentaires? Est-ce qu'elles ont des réunions de leur côté avec les dirigeants locaux, nationaux, internationaux?
Je dois dire que les multinationales, d'abord, elles ne sont pas en Afrique. Elles ne sont pas basées en Afrique, en grande partie. Elles sont basées en Europe, en Amérique et peut-être en Asie aussi, parce qu'on se rend compte que la plupart des minerais passent par l'Asie, où il y a des fonderies, avant de venir ici. Bon, alors, et au niveau du pays, par exemple, dans le processus de révision du code minier, on a eu des réunions tripartites. Il y avait des entreprises, il y avait le gouvernement et il y avait la société civile. Donc, on a eu la possibilité de discuter. Mais il y a d'autres cadres, comme l'OCDE, qui organise des réunions où on trouve ces différentes parties prenantes. La dernière réunion, je pense la huitième, a eu lieu à Kinshasa, en RDC. Et là, j'étais présent, mais il y avait des multinationales, il y avait des représentants du gouvernement, il y avait des représentants de la société civile. Donc, le débat est là. Tout le monde participe au débat, mais tout le monde a des stratégies aussi pour pouvoir conserver ses gains ou pas.
Indépendance, cha-cha, pour s'oublier.
Entre clair, obscur et ténèbres. Cinquante ans, ça se célèbre.
Tout va qui vient.
Si, si. Promesse au lendemain, promesse de l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, pillage et recel. Peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle. Gouvernance en tutelle, l'état de droit essentiel à nos ethnies unies au pluriel. Effet papillon, effet tampon, car ici on change leur en blanc. La révolution au bout du vote, la force du nombre est l'antidote pour changer la dette en dot. Autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence que de différence, et oublier l'État-providence.
Nicolas Cerceron, c'est effectivement assez hallucinant la situation de ce pays qui est tellement riche quand on entend tout ce qu'il y a en République démocratique du Congo et quand on voit l'état de la population.
Eh oui, le Congo est considéré comme un scandale géologique, tellement ses sous-sols sont riches, et on parle de ses sous-sols, mais il y a aussi le deuxième plus grand massif forestier de la planète. Et les Congolais sont parmi les plus pauvres sur l'échelle de l'IDH, l'indice de développement humain de l'ONU, bon, qui n'est pas un indice qu'on soutient nécessairement, mais qui donne quand même quelques critères, et il est parmi les derniers avec le Niger, où il y a l'uranium, l'arlite, etc. Et ça paraît incompréhensible, mais en fait, l'explication essentielle de ça, on peut revenir un petit peu en arrière au moment des indépendances pour comprendre que justement, le Congo est vraiment un... Bon, c'est un pays immense, hein, c'est 5 ou 10 fois comme la France. Et il y avait un type formidable qui avait pris le pouvoir au moment des indépendances, qui s'appelle Lumumba, qui a fait des discours absolument extraordinaires. Quand on écoute ça, vraiment, c'est magnifique. Et il fait partie de ces gens qui ont réussi, de ces gens qui se sont battus contre les colonisateurs, qui ont eu le pouvoir, qui voulaient vraiment le bien-être de leur peuple avant toute chose, et qui ont été assassinés par la CIA, par les Belges, par les Français, etc. Comme beaucoup d'autres. Bon, on peut citer Allende, Sankara, Sylvanus Olympio, il y en a beaucoup. Pourquoi? Bah parce que ils ne voulaient plus laisser partir les matières premières comme ça, brutes, avec pratiquement du vol. Ils voulaient plus qu'on exploite leur pays. Ils voulaient l'autonomie de leur pays et le bien-être de leur pays. Et donc, ils ont été assassinés et remplacés par des corruptibles. Et donc, là, l'exemple est typique, mais on peut le voir ailleurs. C'est Mobutu qui est vraiment, au moment où il a quitté le pouvoir, en 97, je crois, dont la fortune était de l'ordre de 10 milliards de dollars, l'équivalent de la dette du Zaïre de l'époque, qui maintenant s'appelle Congo RDC. Et donc, ces pays héritent aujourd'hui, Kabila, qui est un corrompu, hérite de tout ça.
Alors justement, expliquez-nous comment s'est constituée cette fameuse dette,
alors,
qui est effectivement un peu le nœud de cette période que vous décrivez, la fin de la colonisation, les indépendances, et hop, tout à coup, l'arrivée d'une kyrielle de dictateurs et en effet la flambée d'une dette dont on a du mal à imaginer comment elle s'est constituée, puisque de fait ce sont les pays du Nord qui allaient chercher des matières premières dans ces pays-là.
Et oui, donc c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, enfin déjà, j'ai commencé à avancer cette idée-là que pour continuer à piller, eh bien on a remplacé les armées coloniales par la dette. Alors quelle dette? Effectivement, c'est une dette illégitime. Alors qu'est-ce que c'est qu'une dette illégitime? C'est une dette qui ne profite pas à la population. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple. L'emprunt ne profite pas à la population, mais par contre, elle rembourse. Donc c'est le principe de l'illégitimité de la dette qui recouvre plusieurs sortes de dettes, qui recouvre la dette odieuse, la dette illégale, etc. Alors qu'est-ce que c'est que la dette odieuse? Et c'est vraiment important de le comprendre. C'est une dette qui juridiquement correspond à une doctrine de Alexander Nahum Sack, 1927, qui correspond à une jurisprudence qui a démarré en 1898 à Cuba, quand les Américains ont bouté les armées espagnoles hors de Cuba, et l'Espagne a demandé à Cuba de rembourser la dette de ses investissements, et les États-Unis ont dit non, il n'est pas question, c'est une dette odieuse, on ne rembourse pas. Eh bien, quand les armées coloniales, quand les colonialistes, les Français, les Belges, les Allemands, les Anglais, enfin les Allemands c'était un peu différent après la Seconde Guerre, mais quand tous les pays colonisateurs ont quitté les colonies, eh bien, il se trouve qu'un certain nombre de pays colonisateurs, entre la fin de la guerre et les années 60, entre autres la France, avaient emprunté auprès de la Banque mondiale pour construire un port en eau profonde, des routes, des chemins de fer, pour mieux extraire, pour mieux voler les richesses. et que, eh bien, la Banque mondiale a réclamé à des pays comme le Congo, etc., ben, à rembourser, nous, la dette, puisque ce sont des investissements qui ont été faits chez vous.
Or, c'était des infrastructures, donc, qui ne profitaient pas du tout à la population.
Ah non, les chemins de fer ne transportaient pas des voyageurs, il n'y avait pas de voiture pour transporter sur les routes, personne, ça ne profitait pas à la population, c'était vraiment uniquement pour mieux piller et plus vite, puisque, comme je l'ai dit, c'est la société de consommation qui s'installait, il y avait un besoin accru de ressources naturelles, matières premières issues des mines ou des végétaux.
Qui plus est, Nicolas Cerciron, ce sont les pays du Nord qui avaient contracté ces emprunts auprès de la Banque mondiale pour réaliser ces infrastructures.
C'est bien ça. Et donc, c'est considéré une dette odieuse, c'est une dette qui n'a pas été faite avec un emprunt, qui n'a pas été fait avec l'accord de la population, qui n'a pas profité à la population, et alors que le prêteur le connaissait. Donc, la Banque mondiale, quand elle prête à un pays colonisateur, elle tombe exactement dans ces critères de la dette odieuse. Et donc, c'est une dette qui n'a pas été remboursée par le régime suivant. Or, effectivement, c'était là toute la raison pour laquelle on a assassiné tous ces présidents vraiment de réels démocrates, pour les remplacer par des présidents, des élus, des décideurs qui allaient accepter de rembourser cette dette et qui allaient accepter d'être corrompus par de nouveaux prêts, ce qu'on appelle des aides liées, toutes sortes de prêts. Une aide liée, c'est je te prête de l'argent pour acheter mes camions Renault, donc l'argent ne quitte pas mon pays, mais par contre, ta population va me rembourser les camions. Et puis...
Et toi, tu te sers au passage.
Voilà. Et tous ces décideurs se sont servis au passage, et ça s'est produit en Amérique du Sud, ça s'est produit partout. Il y a quelqu'un de formidable qui a écrit un bouquin qui s'appelle... Des confessions d'un assassin financier, John Perkins, donc qui appartenait à la CIA et qui a été, dont le rôle était de corrompre des élus en Amérique du Sud. Et quand ils refusaient d'être corrompus, eh bien, il leur disait, on va lâcher les chacals, j'y suis pour rien. Et ces présidents mouraient dans des accidents d'avion, etc., étaient assassinés. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose de très, très, très important. Thomas Sankara a fait un discours devant l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, en 87, trois mois après, en disant « je ne peux pas rembourser la dette, et si je ne la rembourse pas, ils ne mourront pas, si nous la remboursons, nous mourrons ». Et trois mois après, il était assassiné, remplacé par Compaoré, qui a régné 27 ans sur le Burkina, et qui vient d'être éliminé, mis de côté par la population. Voilà.
Rembourser la dette, ça signifiait donc, et ça signifie encore, accepter de laisser partir à l'étranger toutes ces richesses du sous-sol, du sol, les minerais, le bois.
Voilà, accepter de laisser partir toutes ces richesses avec des contrats léonins, c'est-à-dire des contrats où il y a une partie qui est totalement perdante, c'était donc la partie des africaines ou d'Amérique du Sud, n'importe, avec des mensonges sur les quantités, avec des prix de transfert, c'est-à-dire on utilise les paradis fiscaux pour minorer le prix de la marchandise, ce qui fait que les miettes qu'on va laisser seront encore plus petites si c'est possible. Et puis surtout, il faut vraiment comprendre ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable, c'est que non seulement toutes ces richesses vont partir à des prix vraiment ridicules, hein, puisque si c'était pas le cas, eh bien la population congolaise serait très riche, et donc on sait qu'elle est très très pauvre, et même les décideurs congolais aujourd'hui sont pas spécialement... Bon, ils ont certainement 3 sous, mais c'est pas extraordinaire. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, qui est absolument incroyable, c'est que ensuite, le peu d'argent qui va être obtenu va être exporté au nom du remboursement de la dette. Et on sait que depuis 20 ou 30 ans, depuis les plans d'ajustement structurel des années 80, eh bien, les pays du Sud sont des exportateurs de capitaux. Et non pas des receveurs de capitaux. On dit qu'on les aide, etc. Non, ce sont des exportateurs nets de capitaux quand on fait la balance entre ce qu'ils reçoivent en prêt, parce qu'ils ne reçoivent jamais de dons. Hein. Les dons, ça n'existe quasiment pas. Hein. L'aide publique au développement, c'est pas des dons, c'est des prêts. Hein. Et quand on dit qu'on va aider je sais pas quel pays qui a Ebola, bien non, c'est des prêts. Hein. C'est jamais des dons. Les dons, ça n'existe quasiment pas. Hein. Les prêts, c'est des prêts avec des taux légèrement inférieurs.
Et là, vous êtes en train de nous entraîner, Nicolas Cerciron, vers un nouveau chapitre de cette longue et sanglante histoire. C'est que, de fait, après la conquête de l'Amérique, après l'esclavage, le colonialisme, les indépendances, cette histoire de dette a pris des proportions également hallucinantes. C'est-à-dire qu'il y a eu ce premier piège qui a été tendu aux pays qui réclamaient leur indépendance dans les années 60. Mais Dans les années 80, ça s'est encore aggravé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que la planète est en train de s'essouffler et de ne plus réussir à donner tout ce qu'on veut lui prendre, l'extractivisme s'est encore renforcé.
Oui, les années 80, c'est un peu particulier puisque c'est la première grande crise de la dette dont on ne parle plus, donc personne ne connaît. C'est la crise de la dette des pays en développement qui s'est produite pour des causes extérieures aux pays en développement, c'est-à-dire que Paul Volcker, en 79, le président de la Banque fédérale états-unienne, eh bien, a décidé d'augmenter le prime rate. Le prime rate, c'est le taux de référence états-unien, sur lequel étaient indexés les prêts, 70% des prêts faits par les pays en développement. Dans les prêts, il faut comprendre qu'il y a les prêts bilatéraux d'État à État, les prêts multilatéraux d'un État à une institution financière internationale comme le FMI, la Banque mondiale, et les prêts privés, c'est-à-dire quand un pays emprunte à une banque. Et donc 70% des prêts étaient des prêts privés, ils étaient indexés sur le prime rate. Donc à partir des années 80, des pays comme le Mexique sont tombés en faillite d'une certaine manière, un petit peu comme la Grèce, et n'ont pas pu rembourser. À ce moment-là,
parce que les taux d'intérêt avaient explosé.
Les taux d'intérêt avaient explosé, donc les remboursements étaient multiples par 3. Donc si vous empruntez pour acheter une maison que vous payez 1000 euros par mois, je dis n'importe quoi, d'un seul coup vous avez 3000 euros à payer, vous pouvez pas payer. Donc évidemment, c'était une catastrophe. Alors que ces pays avaient emprunté pour se reconstruire. Il n'y avait pas d'école, pas d'université, pas d'administration, pas de route pour les gens. Il n'y avait rien. Donc ils avaient emprunté normalement. À l'époque, entre 60 et 80, il y avait beaucoup d'inflation. Donc ça roulait, ils remboursaient sans problème. Donc là, ils n'ont plus pu rembourser.
Attendez, juste pour préciser, ils avaient emprunté pour effectivement se reconstruire, mais déjà pour rembourser cette fameuse première dette.
Oui, ils remboursaient une première dette et puis il n'y avait que des corrompus, il n'y avait pratiquement aucun décideur qui n'était pas corrompu, donc qui détournait une partie de la dette. Donc, mais ça allait quand même, voilà, ça fonctionnait quand même. Il y avait déjà les éléphants blancs, Inga, toutes ces constructions qui servaient à rien.
Expliquez-nous les éléphants blancs là.
Ah, les éléphants blancs, c'est exactement la copie des grands projets inutiles imposés, hein, ou nuisibles imposés. Donc c'est un barrage qui s'appelle le barrage d'Inga au Congo, qui est le fleuve le plus puissant de la planète, hein, au point de vue débit. Donc il y a un projet énorme qui devait alimenter l'ensemble de l'Afrique en électricité. En réalité, ce sont les entreprises qui se sont servies, que Mobutu qui a détourné de partie. Aujourd'hui, les turbines sont ensablées, mais on veut faire un Inga 2, un Inga 3, un Inga 4 qui va faire de l'électricité pour l'Europe entière. Enfin,
vous oubliez des détails importants, Nicolas Cercieron. Les lignes à très haute tension... Oui. Dinga passe au-dessus des villages, mais n'alimente aucun village sur les milliers de kilomètres.
Voilà, c'est en ça que ce sont des éléphants blancs, c'est parce qu'en fait, sur les milliers de kilomètres, sur 2000 kilomètres, on alimentait les mines du Katanga où il y avait du cuivre et l'électricité servait à transformer le minerai de cuivre en cuivre. Et effectivement, les villages n'étaient pas... Enfin bon, bref, les éléphants blancs, c'est exactement les grands projets inutiles imposés. C'est-à-dire, on fait fonctionner des entreprises qui vont gagner beaucoup d'argent, on détourne beaucoup d'argent, et puis c'est la population qui rembourse, quoi.
Vous ne pensez pas à des aéroports dans l'Ouest ou
non,
à des autoroutes
barrages. Non, ni à des lignes de TGV qui vont coûter 27 milliards à travers les Alpes, et que Hollande a décidé de continuer. Donc cette notion de dette illégitime, c'est vraiment quelque chose de très très fort, de très important, parce que aujourd'hui, en France, la dette est illégitime. Bon, selon un rapport du collectif d'audit citoyen, elle est illégitime à 59%.
Attendez, parce que là, vous dites trop de choses à la fois. Donc résumons-nous. On en était aux années 80, la première crise de la dette, par l'augmentation des taux d'intérêt... du prime rate par la Banque fédérale états-unienne. Là, effectivement, faillite d'un certain nombre de pays.
Oui, un pays ne tombe jamais en faillite. Mais effectivement, oui, j'ai été un peu vite, je suis désolé. Donc le FMI intervient, fait des prêts le seul qui était capable de faire des prêts, c'était le FMI.
Le FMI, c'est donc le Fonds monétaire international, une institution internationale qui a été taillée sur mesure par les pays riches.
Créé en 1944 avec la Banque mondiale. En fait, moi,
À Bretton Woods.
Moi, je dis souvent que le FMI et la Banque mondiale sont les outils de l'impérialisme économique des pays de la triade. Les pays de la triade étant Europe, Amérique du Nord, Japon et puis Australie. Et effectivement, donc le FMI prête Il est le prêteur en dernier recours, mais il impose ce qu'on appelle des plans d'ajustement structurel. Donc je ne vais pas trop les définir ici parce que c'est la copie, les plans d'austérité qu'on vit ici ou que la Grèce vit, c'est la copie conforme des plans d'ajustement structurel qui vont créer un appauvrissement colossal des pays en développement parce qu'ils vont être obligés de rembourser très difficilement ces prêts, d'exporter pour rembourser, d'exporter les fonds acquis, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça va provoquer un appauvrissement qui dure depuis 30 ans et qui va les obliger, parce que le FMI va obliger ces pays-là à diminuer tout ce qui est mesures sociales, éducation, donc les infirmières, les médecins, abandonner l'entretien des routes, être obligé de privatiser les grandes entreprises publiques qu'ils avaient créées, être obligé d'accepter que le contrôle d'échange disparaisse et que donc les multinationales puissent investir et rapatrier leurs capitaux. Et en plus, donc les conditionnalités, ça va être l'imposition de la privatisation au profit de ces multinationales, de tout ce qui était possible de privatiser, tout ça pour pouvoir payer la dette. Voilà, donc dégager dans le budget la possibilité de payer la dette. Mais c'est la copie conforme de ce que la Troïka impose à la Grèce et qui produit un appauvrissement généralisé des populations de tous ces pays-là, exactement comme ça se passe pour la Grèce. Voilà, c'est très clair. Pour moi, c'est très clair, mais je ne suis pas le seul pour qui c'est très clair.
Ce qui est très clair, effectivement, c'est que les mêmes recettes sont aujourd'hui appliquées uniformément un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que nous avons longtemps fait partie de cette caste, cette élite qui a profité de la situation, malgré nous. Enfin, il n'y avait pas de désir conscient des populations au nord. Mais de fait, le confort, le bien-être, la surconsommation, dites-vous, sont assis, inscrits dans ce système qui a maintenu une bonne partie de la planète dans la pauvreté, une pauvreté induite par des règles.
Moi, je ne parle pas de surconsommation, je préfère parler de conso-gaspillage. Parce que si on dit surconsommation, après on dit on va arrêter de surconsommer, on va consommer, tout va aller bien. Non, la consommation est un principe de gaspillage qui remplace l'usage. Effectivement, la dette illégitime, si on regarde bien, c'est un transfert des appauvris vers les enrichis. Et les appauvris vers les enrichis, ces deux mots, c'est la dette qui est entre les deux. Alors c'est vrai qu'il y a aussi les paradis fiscaux qui permettent aux enrichis de ne pas payer d'impôts sur leurs enrichissements. Alors si on revient sur ce phénomène-là, ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre, moi je voudrais aller un petit peu au nord parce que le sud, on comprend bien, mais les gens ne savent pas que la dette est légitime et pourquoi elle est illégitime au nord. Parce qu'en France, elle est illégitime selon le rapport du CAC à 59%. Mais bon, ils disent qu'en définitive, c'est 100%. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, justement, 79? C'est la même date, hein. C'est assez intéressant de savoir que ce qui a provoqué la grande crise de la dette des années 79 dans les pays du Sud, c'est, au bout du compte, une décision de Paul Volcker qui correspond aux théories ultralibérales d'Hayek et Friedman, mis en musique par Reagan et Thatcher, chacun de leur côté de l'Atlantique. Et en fait, à partir de ce moment-là, eh bien, on a imposé deux choses. On a imposé aux États, entre autres à la France, de ne plus pouvoir emprunter à la Banque centrale, mais uniquement aux banques privées, ce qui est très particulier. Et puis, le budget était en déficit régulièrement. Le budget de la France était en déficit et on couvre le déficit comment? Ben, en empruntant aux banques privées. Mais alors, ce qui est vraiment très étrange, si on regarde ça d'un œil un petit peu plus élevé, c'est que ce budget était en déficit tous les ans, régulièrement. Bon, ça peut se discuter parce qu'on peut dire on est en déficit, mais on investit pour l'avenir, pour la population, donc c'est formidable. Mais en réalité, on peut comparer là presque un État à un ménage. Vous n'arrivez pas à payer votre loyer. Et vous dites, c'est cool, je vais emprunter à mes copains et puis je vais travailler moi, la moitié du temps. Et bien, c'est ce qu'a fait le gouvernement français au fil des décennies passées. Et il a baissé les impôts des plus hauts revenus et il a baissé les impôts des entreprises. Alors ça, c'est bien sûr au nom du libre-échange. Ah ben non, ils vont s'en aller, les riches, etc. On va pas pouvoir s'en sortir. Mais ça, c'est des mensonges. Et toujours est-il que ça a fait augmenter cette dette dans des proportions considérables, au point qu'en 2007, quand la crise est arrivée, donc la seconde grande crise de la dette, en définitive, parce que c'est pas différent, eh bien, le gouvernement Sarkozy qui a pris le pouvoir, la France avait une dette de 1200 milliards de dollars, et quand il a quitté le pouvoir en 2012, donc 5 ans après, elle était à 1800. Elle avait donc pris 50%. Aujourd'hui, elle est à 2000 milliards de dollars, d'euros, pas de dollars, excusez-moi. Donc c'est absolument incroyable. C'est des sommes considérables et, au nom du remboursement de cette dette, qui est illégitime, eh bien, on supprime les infirmières, on réduit le nombre de professeurs, on réduit tous les services publics en disant, bah, les caisses sont vides. Évidemment, on les a vidées, les caisses sont vides, et donc il faut privatiser. Mais par exemple, privatiser la sécurité sociale, ça veut dire donner beaucoup plus de pouvoir aux mutuelles, remplacer la sécurité sociale, les remboursements par les mutuelles. Eh bien, la sécurité sociale, elle a des frais de gestion qui sont de 2 à 5%, alors que les mutuelles sont des frais de gestion qui sont de 20 à 25%. Comme pour les eaux communales ou les eaux privatisées. C'est donc vraiment un mensonge, quoi, de dire que le privé s'en sort mieux que le public.
Nicolas Cerciron, l'auditeur, là, est un peu perplexe. On était là pour parler d'extractivisme. Serions-nous sortis des rails ?
Pas du tout. C'est ça que j'appelle l'extractivisme, justement. Ça, c'est l'extractivisme financier. C'est-à-dire qu'en fait, au nom d'une dette qui est illégitime, mais personne ne dit qu'elle est illégitime. Au contraire, on dit, ah ben non, vous avez une dette, vous devez la rembourser, c'est normal, c'est une obligation morale. Cette obligation morale, elle vient de très très loin, elle vient du donner, recevoir, rendre, qui a permis de créer les liens sociaux, créer les sociétés. Ce donner, recevoir, rendre, c'était, je reçois et donc je vais rendre, mais je rendrai plus tard. Donc c'est quelque chose qui est fait sur la confiance, et c'est, il y a une dette qui s'installe, c'est
une dette qui s'installe et qui, effectivement, moralement, c'est quelque chose de très fort. Moi, je suis très frappée de la manière dont les médias parlent de la Grèce avec vraiment une sorte de mépris, comme s'ils étaient coupables.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on utilise la morale pour enrichir les riches, alors que d'abord ils ne sont pas coupables. Surtout si on analyse, il va y avoir un audit de la dette grecque auquel le CATM va participer. C'est la présidente du Parlement grec qui le met en route, et on va montrer l'illégitimité de la dette qui a beaucoup de raisons. D'abord, il y a les généraux. Je pourrais citer juste une seule chose, c'est que les Jeux Olympiques étaient prévus à 1,3 milliard. Ils ont en définitive coûté 20 milliards. D'euros, c'est un truc démentiel, parce que ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de corruption. Donc il y a beaucoup d'illégitimité de la dette à travers la corruption, à travers des délires dans les prix, etc. Et donc dire moralement il faut rembourser cette dette, c'est absolument incroyable. Donc c'est vraiment dans cette idée que effectivement les liens sociaux étaient réglés par de la confiance entre les gens qui s'échangeaient des choses et qui se devaient un service, etc. Et donc on a dans notre inconscient collectif le fait qu'on doit rembourser une dette parce que sinon on casse les liens sociaux, ce qui est bien vrai. Mais ça, c'est parce qu'on a reçu quelque chose et qu'on doit le rendre. Mais quand on n'a pas reçu, quand un peuple n'a pas reçu, doit-il rendre ? Non, il ne doit pas rendre. Et donc on l'accuse d'immoralité, ce peuple grec qui aurait vécu comme une cigale. Mais nous aussi, on a été accusés d'avoir vécu comme des cigales. C'est un mensonge. En France, depuis 20 ans, les dépenses n'ont jamais augmenté par rapport au PIB. Donc on nous ment de partout. Pourquoi ? Parce que qui a le pouvoir ? Ce sont les banquiers, ce sont les grands actionnaires des banques qui, eux, utilisent cette morale à leur profit, alors qu'ils sont dans l'immoralité la plus totale. Par rapport aux gens qui crèvent de faim, par rapport à la pauvreté qui s'accumule, par rapport aux catastrophes climatiques et environnementales.
Mais par rapport aussi à ce cercle que vous décriviez, où il faut prendre et rendre pour que la boucle puisse continuer. L'extractivisme financier, c'est de l'argent qui est pris et jamais rendu.
L'extractivisme en général, le pillage, c'est quelque chose d'intéressant, puisque c'est un prendre sans rendre. Quand on vole la forêt, les bois tropicaux, les mines, etc., le coltan, le cassitérite au Kivu pour faire nos téléphones portables et nos ordinateurs, c'est volé, il n'y a que des miettes, c'est du vol. Eh bien, c'est un prendre sans rendre, c'est quelque chose qui casse justement nos systèmes de société, nos systèmes sociaux qui sont bâtis sur un échange juste, même s'il y a une dette, il y a de la confiance et on rend. Et nous, tous, dans nos relations avec nos amis, avec les gens qu'on connaît, on sait très bien que si on ne rend pas, on casse le lien social, on s'isole, etc. Eh bien oui, là, on nous impose une dette illégitime qui casse les liens sociaux, qui casse tout. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui est basée sur la compétition, sur l'individualisme, sur l'ignorance de l'autre, et on ne veut pas savoir que si on est si riche, même si c'est réparti très inégalement en Europe, en France, c'est parce que on a pris sans rendre à des peuples, on leur a pris leurs ressources naturelles, on leur a volé leur travail, etc. C'est pour ça que le mot extractiviste dans le sens pillage de toutes sortes de ressources financières, végétales, etc., ou des ressources humaines est intéressant.
Mais aussi, pour conclure, Nicolas Cerciron, parce que c'est très important et que vous en parlez aussi dans votre livre, tout ce pillage de ressources qu'on ne rend jamais à la Terre.
Oui, ce pillage, effectivement, il est dramatique, puisque il n'y aura plus de ressources pour les générations suivantes. En échange, il y aura ce qu'on appelle une dette écologique, c'est-à-dire une accumulation d'externalités négatives. Nos enfants ou nos petits-enfants devront vivre, en fait, sans ressources pétrolières, avec une terre réchauffée, avec des déchets nucléaires, etc. C'est complètement incroyable de ne pas vouloir comprendre ça. Mais effectivement, les détenteurs du pouvoir, qui sont les mêmes que les détenteurs de capitaux, ignorent tout ça. Ils sont totalement dans l'immoralité. Moi, je les appelle les junkies du profit. S'ils n'ont pas leur dose de profit, ils ne peuvent pas vivre. Mais cette dose de profit implique l'appauvrissement des peuples entiers, la destruction de la planète, le réchauffement. Et tout. C'est ce qu'on appelle la dette écologique qui continue à s'accumuler au détriment des peuples, de tous les peuples, alors que la dette financière illégitime est réclamée, comme on le voit à la Grèce, dans des conditions absolument effroyables. Mais l'audit de la dette grecque va montrer toutes ces horreurs. Qu'il y a de la dette odieuse, de la dette illégale. La Troïka a imposé des dettes illégales, c'est-à-dire le Parlement n'a pas voté. Donc c'est intéressant de comprendre, voilà, je pense que l'audit de la dette grecque va permettre de révéler des vérités ignorées de la plupart d'entre nous.
Et des vérités universelles donc, c'est-à-dire que cet audit pourrait également servir de référence pour l'ensemble de ces dettes que nous avons évoquées.
Je pense qu'il y a beaucoup de peuples sur la planète qui souffrent d'appauvrissement à cause de la dette. En Europe du Sud, on le sait bien, en Espagne et au Portugal, mais dans les pays du Sud, je pense que pour les pays du Sud, si un audit de la dette grecque existait, et puis ensuite, si Podemos était élu et qu'il faisait aussi un audit de la dette espagnole, ça donnerait beaucoup d'énergie et de courage aux peuples du Sud pour se battre et obtenir aussi un audit, oui.
Mais Nicolas Cerciron, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un effondrement généralisé si tout à coup on essaye de cesser ce système, d'en sortir ?
Mais l'effondrement, il va certainement se produire. Je ne sais pas si c'est parce qu'on réclame d'arrêter de payer la dette illégitime qui va se produire. Je pense que l'effondrement, mais je pense rien du tout. Moi, je lis et j'essaye de comprendre ce que je lis. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'un effondrement prochain par manque de ressources, par l'incapacité de continuer à réchauffer, ou alors si on réchauffe la planète en extrayant l'ensemble des ressources fossiles, la planète sera invivable, tout le monde va mourir. Donc il y a un moment donné où des gens vont commencer à se dire non, on veut continuer à vivre, donc on va arrêter d'extraire, de polluer, de réchauffer. Et oui, l'effondrement, il risque de se produire quoi qu'on fasse. C'est pas avec les audits qu'on va provoquer l'effondrement, c'est bien même l'inverse.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Philippe Bredin, réalisation, Anna El Fakir. Bonne semaine à tous. Sala, sala, a se retrouver.
nalakisa yo ndenge nini okoloba mbisi yo moninga crane soki lelo napesi yo lobi napesi yo lobi kuna ntango nakozala te okolela paya nani matanga Tango nyoso sombelanga pesanga kabelanga ye ikolo nyoso sombelanga pesanga kabelanga ye tous les jours sombelanga pesanga kabelanga ye chaque jour sombelanga pesanga kabelanga ye basana na babula sombelanga pesanga kabelanga ye
Makambo wana